Et j'aimerais poursuivre et continuer ce matin sur ce concert, ensemble, le culte, la réunion des croyants, et voir plusieurs aspects avec vous pour que nous puissions continuer, prolonger notre joie. On l'a lu, j'ai de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Et ce matin, le premier aspect que j'aimerais voir avec vous et qui est tellement important, on a appelé ça, c'est un peu une appellation un peu pompeuse ou lourde, je ne sais pas, en tout cas, on appelle ça le sacerdoce universel des croyants. Et quelle chose importante pour vous et moi de nous rendre compte que Dieu nous a placés, introduits dans des fonctions, et dans des fonctions sacrées, qui est d'être sacrificateur pour l'Éternel. Chaque mois de septembre, à l'école, je signe des procès-verbaux d'installation des nouveaux enseignants dans leur fonction. Et j'atteste avec le tampon et la signature, et je renvoie ces procès-verbaux du fait que telle personne a bien pris ses fonctions à tel lieu, établissement d'exercice, et puis à telle date. Et puis, si ce n'est pas présenté, comme c'est le cas d'une collègue, ben, je ne signe rien du tout. Et nous avons le Saint-Esprit qui a signé de son sceau le fait que Dieu, par Jésus-Christ, nous a placés dans les fonctions sacerdotales. Alors, sacerdotales, on dit, oh là là, c'est quoi ce mot-là? Le sacerdoce, c'est un grand mot. Eh bien, c'est le mot qui se rattache à la fonction des sacrificateurs, à ce qui se passe dans le temple. Si on le prend dans l'hébreu, ça sera Kahan et avec le Kohen, hein, la famille, on entend souvent le nom de famille Kohen, qui signifie prêtre, sacrificateur. Et puis dans le Nouveau Testament, ça sera repris avec un mot qui vient du temple, Yéron, et toutes ces variantes, celui qui fait les fonctions du temple, le sacrificateur, le sacerdoce. Et donc, là où pour Israël, c'était tout un culte très formalisé avec des sacrificateurs et des lévites qui étaient les artisans du culte et seuls eux pouvaient présenter à Dieu les sacrifices. Le reste du peuple n'avait pas ce privilège, il n'avait pas, comme il est dit quelque part, Dieu comme héritage. Ils avaient eu telle portion du territoire en héritage, mais aux Lévites, Dieu dit, mais vous n'aurez pas d'héritage en Israël parce que c'est moi votre héritage. Eh bien, le Nouveau Testament nous apprend que chaque être humain qui se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ, alors il devient, à l'instant même, sacrificateur du Dieu Très-Haut, du Dieu vivant. Nous allons voir quelques textes qui nous le disent. Et nous avons besoin de comprendre que non, lorsque nous rendons culte ensemble, nous faisons un concert de louanges, de sacrifices et il est dit, hein, de victimes spirituelles en 1 Pierre chapitre 2, on va le lire. Nous le faisons tous ensemble en tant que sacrificateurs. Dieu nous a placés chacun dans ces fonctions-là. On prend un premier texte, 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9 Dites-vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On dit, oh là, mais ça, c'est d'Israël, c'est des Juifs qui parlent. C'est... Non, c'est de nous, païens, qui avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il continue en disant, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous avons noté, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. On parle souvent d'élection. Le Seigneur nous a élus et nous a élus pour des fonctions. Et on regarde peut-être l'élection de Monsieur le maire, et voilà, Monsieur le maire est élu et il est attendu parce qu'il a des fonctions. Des fonctions de représentation. On l'attend au fait de commémoration du 11 novembre, par exemple. On l'attend à tel comité ou réunion, ce sont ses fonctions. On l'attend ici et on l'attend là. Et imaginons que le maire ne soit jamais présent là où on l'attend, qu'il n'est pas dans ses fonctions. On dit, mais on l'a élu pourquoi celui-là? On l'a élu pourquoi? Le Seigneur nous a élus pour des fonctions et il a fait de nous des sacrificateurs. On le voit en Apocalypse. Apocalypse 1, verset 5, un verset tellement connu et chanté qui est merveilleux. Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de ceux qu'il a délivrés de leurs péchés par son sang, des sacrificateurs. Et ainsi, l'Église composée de chaque croyant doit bien prendre conscience de sa fonction de sacrificateur pour Dieu. Et ne pas passer à côté de ce privilège, de cette joie, de cet honneur. Et nous le voyons en 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 5. Voilà un passage essentiel dans cette notion du fait que nous sommes, chaque croyant racheté par Jésus-Christ est un sacrificateur pour Dieu. En 1 Pierre 2, verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et il est question ici du temple, de la maison, de l'édifice. On dit, bon, ben, le sacerdoce, c'est dans le temple. Il faut un temple. Et puis, il faut des sacrifices, des victimes. Allez, tel agneau ou tel pigeon. L'Épître aux Hébreux dit, mais ça c'était avant. Avant Christ. Maintenant que Christ est paru, ces choses qui étaient des ombres, eh bien, nous servent d'image, de symbole, mais maintenant nous voyons et nous vivons le corps, une réalité en Jésus-Christ. Le temple, qu'est-ce qu'un bâtiment? Il dit, mais non, le temple de Dieu, c'est vous. C'est nous. Ce sont des pierres vivantes. On pose une pierre pour faire un édifice et une pierre sur l'autre et une autre et une autre. Et on pose ça sur une fondation. Et il n'y a pas d'autre fondation que Jésus-Christ. Eh bien, Voilà quelque chose de spirituel. Ce n'est pas une maison matérielle, c'est une maison spirituelle. Ce ne sont pas des sacrifices d'animaux, ce sont des victimes spirituelles qu'on a. Et les sacrificateurs, ce n'est pas une classe de sacrificateurs, une classe à part, une élite, un clergé. C'est chacun d'entre nous, chaque personne qui croit en Dieu, qui se réconcilie par Jésus-Christ, il devient un sacrificateur pour Dieu son Père. Et il va se rassembler avec ses frères, avec ses sœurs, pierres vivantes, pour s'édifier, se construire, monter, et on pense un petit peu au Lego, vous voyez, ou à ces jeux en bois que les enfants aiment beaucoup, et ils vont prendre un morceau de bois, ils vont le mettre, et puis ils vont construire quelque chose. Ben, c'est la même chose. Nous prenons le Seigneur, le Saint-Esprit prend un croyant racheté là, un autre croyant racheté, des croyants rachetés, et ils se mettent ensemble, pierre vivante, et ils forment une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, mais vraiment un vrai lieu plein, entier, où ils sont sacrificateurs du Dieu vivant et où ils célèbrent, où ils glorifient, où ils rendent à Dieu un honneur, un hommage, une louange. Et nous trouvons en Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Ce sacrifice qui est fait, ces victimes spirituelles, qui ne sont pas des bêtes qu'on va sacrifier ou du parfum qu'on va faire brûler et balancer de droite et de gauche pour que cet encens monte vers Dieu, mais cet encens physique, non, il s'agit de victimes spirituelles. Hébreux 13, verset 15 dit « Par lui, c'est-à-dire par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Les victimes, les sacrifices qu'on offre, ce qui se passe, ce que les sacrificateurs mettent sur l'autel, l'encens qu'ils font monter, eh bien, c'est le fruit de leur lèvres. C'est notre bouche qui s'ouvre pour Jésus-Christ, qui témoigne de lui, qui confesse son nom, qui parle de son œuvre, qui disent comment Jésus-Christ les a rachetés, qui parle des promesses que Dieu réalise, sa fidélité et tant de choses que nous pouvons dire à propos de notre Père Céleste et que nous proclamons. Et oui, nous l'encensons, nous faisons monter ce parfum de bonne odeur ensemble vers notre Dieu. Alors, ça pose plusieurs questions. D'abord, dans ce concert, est-ce que je suis un spectateur ou est-ce que je suis un musicien? Voyez-vous, on a souvent eu l'image de la prêtrise où il y a ceux qui officient et puis il y a les autres. Ça, c'est dans toutes les religions. Et du coup, il y a ceux qui sont prêtres, peut-être, pasteurs, diacres, et ils font le job. Ils font le service religieux, l'office. Et puis les fidèles viennent et s'assiedent sur leur chaise et puis ils assistent. C'est pas tout à fait comme ça que la parole de Dieu nous présente les choses. Parce qu'elle présente chacun comme un sacrificateur. Il n'y a pas des fidèles comme au temps d'Israël qui venaient au temple et puis les lévites et les sacrificateurs faisaient le service de l'autel. Non, il dit, non, ça, c'est pas comme ça aujourd'hui. Chacun d'entre nous est une pierre vivante qui s'édifie les uns des autres et on se forme et on s'assemble et on est des sacrificateurs, tous autant que nous sommes les uns et les autres rachetés et sauvés par Jésus-Christ. Amen. Et le culte qui est rendu à Dieu, c'est vraiment ce concert et chacun va jouer sa partition, chacun va jouer la ligne mélodique, on le verra tout à l'heure, inspirée par le Saint-Esprit, formée par le Saint-Esprit. Et nous avons souvent du mal parce que on a aussi peut-être cet héritage d'une vision très cléricale et séparée, où il y a les hommes de Dieu, puis il y a les autres. Et donc, on vient assister. Et on est davantage spectateur que musicien. D'ailleurs, c'est intéressant, même la disposition de notre salle de culte y invite. Nous avons des rangées, comme cela, et puis une scène sur le devant. J'ai grandi dans trois familles d'églises différentes. Et l'une d'entre elles, à ce niveau, sacrificateur qui est prêt à porter son sacrifice de louange. Et nous devons vraiment nous interroger, Seigneur, est-ce que je suis dans mes fonctions? Est-ce que j'ai pris conscience des fonctions que tu m'as données comme sacrificateur? Je suis ton sacrificateur, tu m'as placé dans ces fonctions et je veux répondre présent et pas être absent. Et dans la joie qu'il y a du culte. Il y a une joie toute particulière dans le fait que les sacrificateurs soient tous présents. Nous, Seigneur, nous fait un privilège, un honneur, mais en même temps nous place dans des fonctions. Moi, les enseignants qui ne sont pas en fonction à leur poste, il faut qu'ils aient une bonne raison, vous savez. Ah ben aujourd'hui, j'avais pas envie d'enseigner, je ne suis pas venu. Ah oui, mais c'est ton job. C'est ta fonction. Et dans l'Église, il ne s'agit pas de se dire, tiens, est-ce qu'il y avait beaucoup de spectateurs à l'Église? Mais ce n'est pas la question, c'est est-ce que tous les sacrificateurs de Dieu le Père, étaient là pour leur fonction, pour vivre leur fonction, pour édifier cette maison spirituelle, ce saint sacerdoce, et ensemble pour offrir ces victimes spirituelles. Peut-être laissent-ils le soin à d'autres. Ben, les autres le font. On a le souverain sacrificateur, on a quelques lévites, deux, trois là, ils font le job. Et là, on passe à côté. Et il manque cette joie où tous les sacrificateurs répondent présents dans leur fonction. On peut le comparer à une famille aussi. La parole de Dieu nous dit que l'Église est aussi une famille, nous sommes membres les uns des autres, un corps, mais des frères et sœurs. Et dans les réunion de famille, alors, nous, je sais que, voilà, il y a des moments comme ça où on aime avoir toute la famille qui est présente, peut-être à Noël, peut-être au baptême, quand on a un baptême, on aime que toute la famille puisse venir. Quand il y a un mariage, quand quand il y a un enterrement, ou quand il y a tout simplement des réunions de famille où on se dit, allez, il faut qu'on rassemble la famille, telle date, on loue un truc et on fait une rencontre familiale. On fait ça. C'est toujours quelque chose quand il manque quelqu'un. C'est dommage, la famille untel et le neveu, ils n'ont pas pu venir, ils ne sont pas venus. Il manque quelqu'un de la famille. On dit, on n'a pas réussi à être tous ensemble. Bon, nous, pour la première fois depuis, je pense la première fois, si même pas depuis, c'est la première fois, cet été, on a réussi à être vraiment toute la famille, chacun présent, tous les membres. Il ne manquait personne, c'était la première fois. Et voilà. C'est rare. Et il y a une joie toute particulière. Et c'est drôle. Là, avec ce coronavirus, on a organisé la salle. Tiens, on a mis les noms des uns, des autres, etc. Quelle joie lorsque chacun peut répondre présent. Et il y a toujours une tristesse. Quand on dit, tiens, il y a tel vieil oncle qui, eh ben, il n'a pas pu venir parce qu'il est alité, il est malade. Ou pour telle autre raison. Mais posons-nous la question, est-ce que j'ai vraiment pris conscience des fonctions de sacrificateur dans lesquelles Dieu m'a placé et de son appel à m'édifier avec les autres croyants, pierre vivante, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles. Dans ce concert, c'est le Saint-Esprit qui est le compositeur et le chef d'orchestre. En Jean 4, versets 23 et 24, vous pouvez prendre ce texte où Jésus parle à la femme samaritaine. Jean, évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Et il dit ceci, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qui est le chef d'orchestre? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 14, verset 15, par exemple, dans un débat, bien sûr, à propos du parler en langue, mais il est dit cette belle chose, 1 Corinthiens 14, verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Quand on prie, quand on chante, c'est par le Saint-Esprit, parce que le culte que le Père recherche, les adorateurs qu'il recherche, c'est pas des moulins à prière. C'est pas des gens qui déroulent une liturgie, un programme. Bon, il y a ça, 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 ça. On a fait le programme. On n'a rien oublié. Comme aujourd'hui, on a oublié la Sainte-Cène. Le raté, vous voyez. Mais c'est pas ça. L'adoration que le Père cherche, c'est celle d'hommes et de femmes qui laissent l'esprit orchestrer, composer, pose notre ligne musicale, compose dans notre vie, il la compose dans notre semaine, il la compose dans nos combats, on a victoire, il la compose dans ou dans telle épreuve, dans telle souffrance, pour chacun d'entre nous d'une manière différente. Et c'est orchestre de notre concert. Il nous enseigne que se dérouler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met à cœur, nous trois sérodies. En question à cette élection d'Israël pour rendre culte à Dieu et qui dit, mais est-ce que c'est des circoncis? Il dit, mais la circoncision, c'est celle du cœur. Et les circoncis, c'est nous, dit-il. Nous, païens, nous qui ne sommes pas forcément circoncis dans la chair, il dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. Un culte rendu par l'Esprit de Dieu. Alors, le culte, c'est pas, je le redis, un programme bien façonné qu'on va exécuter, qu'on va dérouler. Il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Parfois, ça peut nous arranger quand il y a une bonne liturgie, parce qu'au moins, ça évite qu'il y ait le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est parti, au moins, il nous reste la forme et le contenu, c'est là. Et on exécute. Un petit peu comme un CD qu'on va mettre dans un lecteur, et puis ça va faire la musique, hein, mais ce n'est pas les vrais concertistes. Hein. Ça doit nous interroger. Je suis un musicien, je suis un sacrificateur. Et on édifie ensemble une maison spirituelle. Est-ce que je me mets sous la direction du chef d'orchestre? Est-ce que je suis prêt à être conduit par lui pour le concert qui est donné? Alors ça pose là encore une question, hein. Est-ce que la forme choisie pour notre culte favorise l'expression du Saint-Esprit ou est-ce qu'elle le limite? Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que chaque communauté, question à laquelle chaque communauté doit veiller, doit réfléchir, doit faire attention. Il y a des cultures d'église, bien sûr, mais moi, je me pose souvent la question, parce que ce n'était pas ma culture d'enfance, mais quand on a quelqu'un qui préside et qui va vous dérouler les 10 chants parce qu'ils ont déjà été choisis à l'avance, c'est que où est la place pour que les sacrificateurs et les pierres vivantes que chacun est dans l'Église puissent ouvrir la bouche sous l'inspiration du Saint-Esprit? On le reverra tout à l'heure, et peut-être proposer tel cantique, proposer tel passage. Alors bien sûr, vous savez que souvent, dans le culte, on a des moments où on laisse ce temps, se dire si quelqu'un a un passage, si quelqu'un a une exhortation, apportez-les. Mais c'est vrai que ça interroge bien sûr la forme du culte. Comment est-ce que finalement ça va un petit peu limiter, est-ce que ça va favoriser le fait que chaque sacrificateur qu'on ait puisse vraiment vivre ses fonctions sacerdotales avec liberté et conduit par le Saint-Esprit. C'est une question que je pose. Hein. Soyons sensibles. Autant que nous sommes à dire, je ne suis pas là pour être un spectateur, mais pour être un musicien. Parce que je suis un sacrificateur. Et je vais apporter ma ligne mélodique, musicale, que le Saint-Esprit a préparée, a composée, et qu'il veut jouer à travers moi, qui suis son instrument. Alors justement, le contenu du concert. C'est notre dernière partie. Alors, un petit rappel des passages que nous avons lus en 1 Pierre 2, 5, il est parlé de victimes spirituelles, en Hébreux 13, 15, de sacrifices, de louanges. Il s'agit que, non pas de forme, mais de fond. Il s'agit que notre cœur puisse exprimer à Dieu sa louange, sa reconnaissance, son admiration. Il y a de la place pour la confession. Il y a de la place pour les témoignages de comment Dieu œuvre dans notre existence, dans notre vie. Bien sûr, en acte 2, l'église primitive de Jérusalem, on voit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le souvenir au travers de la Sainte Cène, un moment fort et particulier, les temps de prière, le fruit des lèvres, mais aussi les chants. En Éphésiens 5, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce à Dieu. » En Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous richement. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors on voit une place toute particulière pour les cantiques. Et c'est vrai que la musique a quelque chose d'unique qui transporte l'âme, qui saisit l'être humain. Il dit, mais utilisez ces sons, cette mélodie qu'il a et qui nous pénètre dans notre esprit, dans notre corps aussi, dans notre mémoire, et on a ces mélodies qui ne nous quittent pas, on se les chante toute la journée, on dit oh, ah, j'ai cette chanson dans la tête. Ben, vaut mieux que ce soit des chansons qui nous édifient que des chansons stériles ou. Vous voyez, ça nous exhorte, ça nous encourage, ça nous instruit. Et il est dit que les uns les autres, on peut s'entretenir, on peut s'exhorter. On peut chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur par les cantiques. Une place toute particulière pour les cantiques, mais aussi pour la prière, pour élever nos bouches, parce que nous parlons au Seigneur, mais nous parlons aussi du Seigneur, de ce qu'il fait dans nos vies, à nos frères, à nos sœurs. Et nous en venons à un dernier texte, 1 Corinthiens 14, 26. Tout un texte vraiment intéressant, un passage, là encore, il y a besoin de mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe. Il y a du bazar, il y a du désordre, ça part dans tous les sens. Et le Seigneur dit, ma maison est une maison d'ordre. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Néanmoins, 1 Corinthiens 14, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» C'est ce que nous faisons. « Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se passe pour l'édification. » Et l'on sent bien qu'il s'agit vraiment d'un concert et d'une assemblée de sacrificateurs. Et le Saint-Esprit va utiliser l'un et l'autre C'est lui qui décide, c'est lui qui orchestre. Et peut-être que l'un va avoir un cantique, l'autre une exhortation, une instruction, un passage de la parole. Nous devrions pouvoir, tout un chacun, avoir une place pour notre ligne musicale. Non pas que c'est la nôtre, mais c'est celle que le Saint-Esprit veut jouer à travers nous. Pas spectateur, mais acteur, musicien. Pas des gens du simple peuple, mais une nation sainte, une race élue, des sacrificateurs, où chacun va ouvrir la bouche pour Jésus-Christ. Et là, je veux encourager chacun. Parce que dans l'Église, qui est cet orchestre symphonique, il y a tous les instruments que nous sommes. Et chacun a son timbre particulier. Et il y a une joie toute particulière lorsqu'on entend la vieille contrebasse qui est là, et avec toute sa... ses années, son expérience, mais il y a aussi ce petit piccolo qui est là et c'est la voix peut-être d'une petite fille de 11 ans, mais sa ligne mélodique ne ressemble pas à celle de la vieille contrebasse. Et elles sont toutes les deux pour la gloire de Dieu. Et c'est ça le concert qui devrait être, c'est comment, et nous avons tous nos noms inscrits dans les cieux, ils sont inscrits sur ces chaises aussi, mais quelle joie, moi j'aime entendre chacun prier, j'aime entendre la voix de ceux que je n'entends jamais, j'aime entendre comment Dieu travaille dans leur vie, ce qu'ils vont exprimer à Dieu. Et ça doit nous interroger, est-ce que nous réjouissons le cœur les uns des autres, justement, en osant jouer notre ligne mélodique, ou est-ce que on reste un peu à l'écart, ah mais moi je suis timide, je n'ose pas, j'ose pas prier en public, je ne suis pas à l'aise. Moi, je suis désolé, mais dans la parole de Dieu, je ne trouve absolument pas de justification qu'on puisse, derrière laquelle on puisse se réfugier quand on dit « mais je suis timide ». Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2 Timothée 1, verset 7, il nous est dit « ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ». Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et il le dit à quelqu'un qui se réfugie derrière sa timidité, sa difficulté, mais j'ose pas, j'ai un peu honte. Paul le dit à Timothée par le Saint-Esprit. Il dit, mais attends, c'est qui le chef d'orchestre? C'est qui le compositeur? C'est le Saint-Esprit. Alors oui, peut-être tu as cette timidité. Oui. Ne te réfugie pas toute ta vie de chrétien derrière. Apprends que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Et tu vas ouvrir la bouche et tu vas jouer ton violon, tu vas jouer, bien sûr spirituel, hein, pour la joie de chacun dans l'Église. Alors peut-être on se dit, oh ben moi, je ne sais pas bien prier. Il y en a, ils sont à l'aise. Il y en a, pour eux, c'est facile de parler. Il y en a, ils sont capables de faire des prières. Ben, je vais vous dire un truc. En général, c'est pas forcément ces prières-là qu'on apprécie le plus d'écouter. Les prières qu'on apprécie le plus d'écouter sont souvent celles des gens qui sont pas forcément à l'aise et ça va sortir des prix. Et ça nous touche. Je m'adresse en particulier aux jeunes aussi. Souvent, les jeunes se disent, bon, mais moi, je suis jeune, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Je ne sais pas trop. Vous n'imaginez pas, les jeunes, la joie que vous allez donner aux vieux croûtons que nous sommes, aux vieux sacrificateurs que nous sommes, quand vous ouvrez la bouche dans l'église pour prier, pour proposer un cantique. Et si je prends chacun des adultes ici, que je leur demande, est-ce que vous avez une joie toute particulière quand vous entendez un jeune, un enfant dans l'église? Oui?
Oui.
Oui. Et vous savez, si vous osez le faire, si vous osez prendre votre place de sacrificateur, vous allez mettre un dynamisme et une joie dans l'église. Pourquoi? Parce que les jeunes ne seront pas là juste sur leur fauteuil, tu sais, des spectateurs, des assistants. Mais non, ils seront là, musiciens. Musiciens pour Jésus-Christ, sacrificateurs pour Dieu. Ah, il faut combattre cette timidité, c'est vrai. Alors, il y en a qui veulent se montrer, hein. Il y a l'orgueil. Oh, ils veulent se montrer. La timidité, c'est le contraire, on veut se cacher. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est la fierté. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Balayons tout ça. Soyons simplement authentiques, vrais. Laissons le Saint-Esprit orchestrer, composer. Mettons-nous à sa disposition, Seigneur. Si tu veux que je donne un coup d'archet là, je suis prêt à le faire. Et les musiciens le savent, hein. Jouer devant un public, jouer devant les autres, c'est pas évident, hein. Mais c'est pas un esprit de timidité. Et pensons à la joie que nous donnons au Seigneur, mais que nous donnons aussi à chacun dans l'Église. C'est particulier, vous savez, quand finalement dans une église, vous avez deux, trois personnes, toujours les mêmes, qui prient, qui portent, qui tirent, qui proposent. Je ne crois pas que c'est l'Église telle que Dieu la conçoit. Il est vrai que souvent la forme que nous donnons à nos cultes, même la configuration spatiale, souvent invite à ça, malheureusement. Mais commençons par prendre conscience. Dire, je suis un sacrificateur, le Seigneur m'a investi dans ces fonctions-là. Il a mis son tampon. Et je vais vivre ça. Et si j'ai un cantique à cœur, je peux le proposer. Si j'ai un passage qui m'a fait du bien, je peux exhorter mes frères et sœurs. Et lever la main et dire, j'aimerais lire un passage, etc. Le culte, c'est ça. Et c'est quand il est vécu comme ça qu'il est riche. Alors, mettons-nous face à cela, à ce sacerdoce universel, c'est-à-dire commun à tous, les croyants, ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Eh bien, ils sont devenus des sacrificateurs à part entière, quel que soit leur âge. Vivons-le, cherchons à le vivre en Église. Et, la dernière fois, j'ai parlé de, hein, j'ai de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'était plus la partie de notre semaine, c'était plus nous. Là, c'est plus l'aspect collectif. Pierre vivante et pierre vivante qui les unes et les autres s'assemblent et s'édifient et forment une maison spirituelle pour offrir des victimes spirituelles. Vivons pleinement cet aspect-là de l'Église et nous en aurons une joie et une croissance. Il y a une croissance qui en découle. Et c'est quelque chose de formidable. Prions. Merci Seigneur, parce que tu nous fais découvrir quelque chose d'unique. Tu fais de chacun de nous des sacrificateurs pour ton Père. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela et à venir comme concertiste dans la salle, pas comme spectateur. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ton esprit qui nous dirige, à guetter son coup de baguette de chef d'orchestre qui nous dit « vas-y là ». Seigneur, tu veux que nous en ayons une joie toute particulière, mais c'est à ta louange, c'est à ton honneur que ces assemblées d'église sont, non pas comme quelque chose de formel, de rigide, d'écrit à l'avance, sans âme, mais comme quelque chose de vivant. Nous ne sommes pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes par ton esprit. Et tu veux faire résonner ton temple de nos voix. Peut-être ce sera la voix de notre confession, la voix de notre chagrin, mais de ta consolation. Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, une sorte d'uniformisme où chacun, on est dans le même costume. Pas du tout. Et on veut t'en louer, te remercier pour cela. Nous en sommes là où nous en sommes, Seigneur. Tels que nous sommes, nous venons. Parce que nous avons reçu de ta grâce. Et nous voulons. Parce que tu nous as sauvés et rachetés. Répondre présent à ton service et être sacrificateur pour toi. Et c'est par Jésus que nous te prions et te demandons de nous aider à vivre davantage et mieux cette dimension de notre appel. Amen.
Merci Adrien pour cette nourriture, cette présentation de mélodie, ou de partition on va dire. Quelques petites annonces. Le mardi, rendez-vous 15h sur Zoom. Le vendredi à 18h15, ici présent dans la salle.
Alors, l'horaire maintenant change. On reprend en présentiel, mais ce sera
18h30. D'accord. Donc, 18h30, rectification de l'heure. 18h30, ici, sur Arles, rue Sadi-Carnot.
Donc, on peut bien redire à chacun que, voilà, ça reprend dans la salle.
D'accord. Donc, on commence à reprendre au fur et à mesure dans la salle, pour les zooms. Le dimanche, le culte. Donc, dans la salle aussi. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ce sera en continuant encore sur Zoom. Mais on vous invite à venir ici, dans la salle, pour avoir la communion, avoir ces partitions et ces mélodies. Est-ce qu'il y a d'autres annonces?
Alors, oui, j'ai une annonce. Il y a une dame chrétienne qui était sur Arles il y a une douzaine d'années, Claudia, et qui m'a contacté parce que, avec son mari, il est revenir dans la région. Voilà. Et donc, chose faite en tout cas pour elle, le temps que lui, bon, il a mal, etc. Mais elle a trouvé du travail donc, à la pharmacie de l'hiver et revient s'installer sur Arles. Et seulement, elle commence à travailler jeudi, mais son logement n'est disponible qu'en début de mois, donc le 1er ou le 2 octobre. Et donc, elle avait besoin de 3 jours. Intermédiaire d'hébergement. Voilà. Donc, avec Jean-Denis, on a pensé que c'était l'occasion de hâter un petit peu l'utilisation de l'étage. Donc, les travaux avaient été faits pour avoir une salle de bain, voilà, la peinture est tout à fait finie, etc. Avec Luc, mercredi, on est allé acheter. Pour avoir de quoi dormir, etc. C'était manqué à l'étage. Donc, ça s'est fonctionné. Par contre, pour l'instant, c'est vrai, les travaux ont été faits, ça a besoin d'un manque de place. Donc là, je lance un appel parce qu'elle va arriver donc jeudi. Je lance un appel pour m'aider à rendre l'étage quand même à peu près propre pour pouvoir accueillir cette sœur pendant 3-4 jours. Alors, pour ceux qui sont libres cet après-midi, moi je ferai un premier coup de ménage. Et pour ceux qui sont libres mercredi après-midi, je ferai deux créneaux. Un créneau donc cet après-midi, un créneau mercredi, pas ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, contactez-moi, dites-moi, voilà, moi je suis beau, je vais te donner un coup de main. Voilà, je dois pouvoir aider cette sœur, faciliter en tout cas, de lui un petit peu dans les bras.
Merci. Pour conclure, je vais vous proposer un chant pour remercier tout ce que l'on a pu entendre aujourd'hui. Le 59 dans les recueils. Dans le GEM, c'est le 113. Merci Seigneur.
Merci, car nous sommes tous en toi.
Sur Romains 15, parce qu'il y a un petit verset que je vous ai enlevé et que je vais vous mettre pour la finale. C'est le verset 13 que je vais vous présenter comme sous forme de bénédiction pour la semaine. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche. Merci.